France Culture.
Le prix Goncourt, il est créé en 1901. Après une bataille juridique qui a duré des années, celle qui a permis à Edmond Goncourt de mettre toute sa fortune dans la littérature et dans un prix, et dans une académie qui portera son nom. Saint-Sénacle, hein, il y a une loi littéraire, il y a un chef, Edmond Goncourt, ou désigné par Edmond Goncourt, une académie qui a des missions à accomplir. Parce que l'Académie française, elle existe donc, elle est bien plus ancienne, hein, elle a plusieurs siècles, et elle a toujours rejeté le roman, parce que le roman, c'est un genre populaire, souvent lu par des femmes. Donc c'est pas un genre noble. Le roman ne fait pas son entrée rapidement comme les deux autres genres. À l'Académie française, c'est la poésie et c'est le théâtre. Le roman, vous avez Balzac qui a demandé à plusieurs reprises à rentrer à l'Académie, il a toujours été rejeté. Et puis le pire, c'est Zola, je crois, qui a demandé 24 fois. C'est dire si le roman, c'était vraiment de la sous-littérature pour les académiciens.
Voici le résultat du prix féminin.
1er décembre.
Cette séance ne s'est pas passée sans orage.
1938.
Notre présidente est à moitié morte, n'ayant pas pu déjeuner. Les dames protestent, mais c'est la vérité, elle n'a pas pu déjeuner, elle est morte d'inanition, on va la servir maintenant. Elle a bouffé des bulletins. Quant à moi, je suis madame de la rue Mardrus, ici présente, et je ne vous souhaite pas du tout de faire partie d'un comité littéraire. C'est une tâche épouvantable.
La lectrice, l'électrice.
Celle qui lise, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez. Épisode 8, aux lectrices, la littérature reconnaissante. Le monde du livre vit désormais grâce aux femmes. Dans une salle de classe, des femmes. Dans les maisons d'édition, auprès des manuscrits, des femmes. Derrière les comptoirs des librairies, des femmes. Et celles qui lisent. Depuis 1989, les lectrices sont majoritaires. Et c'est peut-être elles qui ont permis l'essor de nouvelles voix, de faire émerger ce panthéon contemporain d'écrivaines, celle qui nous propose d'autres modèles, des fictions où la femme n'est plus ce personnage secondaire, sexué et passif. De quelle manière s'exerce aujourd'hui le pouvoir des lectrices ?
Il y a eu un prix qui a été créé par 22 femmes de lettres. Le prix s'appelait « Vie heureuse ». Et alors là, moi, ce « Vie heureuse », je me suis dit, ça sort d'où ça ? Donc j'ai cherché, je suis tombée sur des vieilles revues du début de siècle. Il y en avait une qui s'appelait « Femina » et l'autre « Vie heureuse ». Et en fait, c'est des revues qui ont fusionné. C'est-à-dire, en fait, Vie heureuse a été rachetée par le détenteur de Femina, qui était quelqu'un qui appartenait au groupe Hachette. Et le prix est devenu Femina. Je m'appelle Sylvie Ducas, je suis professeure de l'Université de Créteil, où j'enseigne les littératures de langue française contemporaine. Je suis chercheuse sur l'imaginaire de l'écrivain, le monde du livre. Donc, les deux revues incitent la lectrice lambda à s'impliquer dans des concours de poésie, dans des sociétés. Donc c'est une espèce d'agora fantastique où on a les balbutiements d'une revendication d'un écrivain femme, enfin des choses qui étaient dans les oubliettes pendant longtemps. Hein.
Et puisqu'il nous reste encore quelques instants, rappelons brièvement la composition du jury. Madame la comtesse de Chambrun, Madame Clémence Aujac-Mer, Madame André Cortis, Madame la duchesse de la Rochefoucauld, mais voici que la porte s'ouvre.
6 décembre.
Et Madame Saint-René Taillandier, présidente du jury, vient nous communiquer les résultats.
Bien, messieurs, après 5 tours de scrutin et une discussion animée,
chère madame, la lauréate, je vous embrasse au nom de tous les messieurs.
Le jury féminin n'a jamais été une académie. C'est un comité. Comité, c'est juste des femmes se rassemblent et font quelque chose ensemble. Ça a donné lieu à des propos vraiment misogynes. Elle s'enflamme pour un poulain. Elle s'écharpe en permanence. 25, 30 tours de scrutin. Parce qu'il n'y en a aucune qui lâche. C'était des femmes stupides, des précieuses ridicules, comme chez Molière. Voilà. Donc on les tournait en dérision, elles avaient tous les noms d'oiseaux. C'est très, très violent. Donc il n'y a pas un espace comme en Angleterre, par exemple, où les suffragettes, elles se sont imposées et par le vote politique. Elles, c'est une forme de vote, moi je dis toujours. Elles auront le droit de vote qu'en 45. Et au début du siècle, en 1904, quand elles créent leur prix, elles inventent une forme de vote. Elles vont voter pour des écrivaines ou des écrivains. Ça a été dur, le début. Ce qui les sauve, c'est la naissance d'un système. Ils savent pas encore que les éditeurs ont vu la manne qu'ils allaient se faire chaque année. le rituel des prix.
Ces dames du féminin ont perdu leurs privilèges, elles ne sont plus les seules femmes à décerner un prix littéraire.
27 juin 1970.
En effet, l'électrice d'un hebdomadaire féminin a donné sa chance à un auteur inconnu, Christiane Delacroix était là.
Les lectrices de Elle ont eu à se prononcer pour cette attribution.
Hélène Lazareff, est-ce que la création de ce prix littéraire signifie pour vous une collaboration plus étroite entre vos lectrices et vous-même ?
Il y a beaucoup de femmes qui sont venues ici à Paris de toutes les régions de France. Ce qui prouve qu'elles ont un intérêt pour la littérature, qu'elles se cultivent, que c'est quand même tout un nouvel état de choses. Il y a 5 ans, je ne crois pas que des femmes se seraient déplacées pour aller écouter un prix littéraire. Mais comme elles sont très modernisées, je crois que c'est très sain pour tout le monde.
Alors, mesdames, messieurs, je vous propose ma candidature pour faire partie du jury littéraire des lectrices du prix Elle. Je souhaite me présenter en quelques phrases. Je suis Adassa Denou et je suis passionnée de littérature. J'ai 45 ans à l'époque. J'habite dans le 18e arrondissement de Paris. Je vis en couple et nous avons 2 filles de 15 ans à l'époque. J'ai eu une longue carrière professionnelle dans le médical, mais en pause depuis quelques temps. Ma vie d'aujourd'hui tourne autour de ma passion des livres. Ah, mon petit carnet. Alors, dans ce petit carnet, donc c'est tous les livres qui ont été dans les dernières sélections du L. Ceux-là, c'est vraiment, on les a toutes lues. Donc voilà, la récit non-fiction, le roman fiction et puis le polar. Et donc ensuite, ils sont tous notés sur 20. Lui, je ne l'ai pas noté parce que je ne l'ai pas fini. Ça partait trop dans tous les sens pour moi. Là où il y a une petite croix rose, c'est ceux que j'ai lus. Ensuite, j'ai rayé ceux qui ne faisaient plus partie de la liste Goncourt pour garder les 4 derniers. C'est que des contraintes de lecture. Vous en avez quand même beaucoup à lire. Donc, ceux que vous choisissez, vous essayez de les choisir bien. Parce que derrière, il y a un engagement. Et puis, il y a un auteur. Parce qu'il y a des retombées pour les auteurs d'un prix. Donc, c'est pas anodin. Et je trouve que le prix Elle, ou le prix qui est décerné par les lecteurs, sont vraiment des prix qui représentent le monde littéraire et le monde des gens qui lisent. Il y a plein de prix Goncourt que je n'ai jamais lus. Parce que, passer la première page, j'y arrive pas, quoi. J'aimerais savoir sur quoi il se base pour donner un prix Goncourt comme pour donner un prix Nobel de littérature. J'ai pas grandi dans une famille où le livre était autorisé déjà. C'est-à-dire que c'était du temps perdu. Pour preuve, c'est que j'ai lu mon premier livre en cachette, sous ma couette, à 16 ans, et c'était Rebecca de Daphné du Maurier. Donc là, j'ai eu une vraie claque. Et ensuite, j'allais à la bibliothèque et je prenais comme ça un peu des livres au hasard, mais en fait, de 16 à une vingtaine d'années, j'avais pas un accès aux livres, vraiment. Et autrement, j'y allais parce que dans le métro, je m'ennuyais, parce que j'avais pas une appétence pour la lecture. Et je trouvais tout le temps que c'était quelque chose pour, entre guillemets, les intellos ou les vieux, bon, sincèrement. Et puis c'est venu comme ça, j'ai rencontré Stéphanie, il y a eu ce coup de cœur, et je sentais ouais, qu'elle avait une fierté aussi... d'avoir eu une petite lectrice qui est devenue grande, si je puis dire. Mais sans elle, sans cette librairie, non. Je pense que j'aurais pas du tout... Vous savez, j'avais beau avoir ma famille qui me disait, ou les copines, mais si, attends, tu vas t'éclater, ça va être super, voilà. Quand c'est quelqu'un qui est du milieu, en qui vous avez confiance, et vous savez qu'il a un impact, c'est pas la même chose, en fait. Et là, quand moi, Stéphanie m'a dit « Mais si, vas-y, fonce, fais-le. Fais-le, franchement. » Parce qu'elle voit tout ce que je lis, vu que je publie sur Instagram ce que je lis. Elle voyait tout ce que je lisais, etc. Elle me dit « Mais si, attends. » Et c'est vrai qu'elle m'a permis de me mettre, parlez vulgairement, un petit coup de pied aux fesses pour me dire « Vas-y, fais-le. »
Le Grand Prix des lectrices a été créé en 1970 par Hélène Lazareff, qui est la fondatrice du journal Elle. Et en 1970, Hélène a l'idée de ce prix par opposition aux autres prix littéraires qui, à l'époque, sont fortement masculins, à l'exception évidemment du féminin, et qui sont uniquement des jurys de professionnels. Et elle se dit, je vais faire le contraire, je vais demander aux lectrices du journal de devenir des lectrices, et évidemment, il n'y aura que des femmes, et donc elle invente ce prix, qui à l'époque ne couronne que des romans, et ce prix va très vite devenir très important, parce que très prescripteur. Donc les éditeurs voulaient en être.
Olivia de Lambertori, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ?
Je suis journaliste à Elle depuis très longtemps. et je dirige la rubrique livre depuis 2001, et donc le Grand Prix des lectrices également. On fait très très attention de sélectionner le plus possible de maisons d'édition différentes, des petites, des grosses, des auteurs connus, des moins connus. J'ai vraiment la chance de faire cette sélection avec Clémentine Golzal, qui n'est pas de la même génération que moi. Et après, moi je me dis toujours, il faut que... Quand on sélectionne les livres, je dis à Clémentine, est-ce que si ce livre gagne, on est content que l'auteur ou l'autrice monte sur scène et vienne chercher le prix? On n'est pas très content, on prend pas.
Ça ne s'arrête jamais.
C'est une addiction de maman.
Ah oui, oh, c'est une vraie addiction. Je peux pas passer une journée sans lire. Je peux pas. Oui, je me lève le matin, je lis, je vais à la salle de sport, je lis, je suis dans le transport, je lis. Je lis tout le temps.
Vous lisez combien de livres par mois?
Alors moi, je compte en pages. Parce qu'une nouvelle, ça fait 20 pages. Et du coup, ça compterait un livre. Donc, je lis 4500 pages par mois.
Ça représenterait combien de livres, par exemple, de 300 pages?
Ça représenterait 15 livres de 300 pages. Donc après, je lis 4 livres en même temps.
D'accord.
Ce qui compte, c'est les échos que la lecture a provoqués en elle. Et c'est ça qui est bouleversant. Et je peux vous dire que ces petites notes de lecture, on les envoie à tous les auteurs. Et les auteurs, ils en sont bouleversés. C'est des vraies lectrices. Parce que le mois où vous devez lire 3, 5, 7 livres, et en plus on leur demande une note extrêmement circonstanciée, avec une note après sur 20, donc c'est un vrai investissement. Alors vraiment, elles ont toutes les professions. C'est plutôt des femmes qui sont actives, qui ont des enfants. On pourrait croire que les femmes qui lisent, c'est celles qui ont plein de temps devant elles. Mais en fait, c'est faux. Celles qui lisent, c'est celles qui prennent le temps de lire.
Comment est-ce qu'on lit à la salle de sport?
Le piège. Eh bien, quand après avoir fait une heure de tapis, à bien suer, on a besoin de sa récompense. Et donc, je lis au sauna. Mais je ne lis pas n'importe quoi au sauna. Je lis que des petits livres qui font 50 pages. Voilà.
Qu'est-ce qui a fait bouger les lignes dans la société? Ce sont uniquement des livres écrits par des femmes. C'est Vanessa Springora, c'est Camille Kouchner, c'est Adèle Lyon, toutes ces filles qui, d'ailleurs, entre parenthèses, ont été couronnées par le Grand Prix des lectrices. Je trouve que c'est renversant ce qui se passe, parce que il s'agit pas de trois lectrices à Saint-Germain-des-Prés, il s'agit de lignes qui bougent. Dans la société, on découvre quoi? Qu'il y a trois enfants qui sont abusés par classe. Et tout ça, grâce à qui? Grâce à des écrivaines. Qui a fait le succès de Nashino il y a 2 ans? Est-ce que c'est pas des lectrices? C'est pas des lecteurs. Qui a fait le succès de Christine Angot? C'est certainement pas des lecteurs. Donc je pense que les lectrices, elles sont bien plus avisées et bien plus audacieuses. Et ce que j'aime dans un livre, c'est entendre une voix. Donc moi, j'ai vraiment une foi dans la littérature et dans les autrices et dans les lectrices qui est vraiment un truc qui me rend forte et qui me rend très joyeuse dans la vie, qui n'est pas non plus un champ de coquelicots tous les jours.
On a vu des exemples assez remarquables après MeToo.
Estelle Mouton-Rovira, maîtresse de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne.
Après 2017, le livre de Vanessa Springora, Le consentement, depuis l'espace littéraire, a contribué à modifier les représentations sociales du consentement. C'est un livre qui a été un événement littéraire et politique parce qu'il a donné à voir la réalité d'une expérience d'abus. Et je crois que c'est le retentissement du livre qui a permis peut-être à une partie du public qui n'y serait pas intéressée spontanément de réfléchir à la question.
C'est là aussi que ça se joue, c'est-à-dire que bien sûr que la lecture est une expérience solitaire.
Mélie Chen, éditrice et jury du prix Goncourt.
Mais, et c'est ce qui se passe dans un jury comme le Goncourt, c'est ce qui se passe dans des book clubs, c'est ce qui se passe dans beaucoup d'endroits, c'est que la lecture crée des espaces qui sont plus grands que la lecture solitaire individuelle. C'est ça qui se passe d'assez magique, disons, mais au sens puissant et polymorphe, disons, du terme, qui est que lire, ça se fait seul, et pourtant, ça fait qu'on se relie les unes et les autres. L'expérience de la lectrice fait qu'il lui est possible de réfléchir sur son expérience et de lectrice, et de femme, et de personne minorisée dans une société, et donc de partager cette expérience avec d'autres lectrices. Et c'est là qu'il se passe quelque chose.
Très rapidement, on vous fait l'historique. Le prix Goncourt, c'est d'abord une DA, c'est-à-dire la création de ce prix qu'on doit à Lauriane Nicole et Alex Lachka.
Le Goncourt sert plus à dire des choses qu'à y lire.
Lauriane Nicole, co-créatrice du prix Goncourt.
On envoie aussi des messages, en fait, au monde littéraire en faisant ça. C'est pour qu'on soit visible et que les choses qu'on dise soient entendues. Donc là, en changeant les critères, le message, c'est effectivement le monde de l'édition est tel qu'il est, c'est-à-dire qu'il va favoriser des auteurs-autrices déjà établis, des maisons d'édition qui sont bien installées dans le paysage français. Et donc, il y a des voix qui passent sous silence, malheureusement. Donc nous, notre travail, c'est de visibiliser aussi bien une petite maison d'édition telle que Hystérique Associée ou les éditions du Commun, par exemple, que les éditions du Seuil ou les éditions de l'Olivier. C'est-à-dire qu'en les mettant dans notre liste, on les met sur un pied d'égalité.
Nous sommes les souterrains.
Anna Mouglalis.
Sombre lumière d'un ouvert, le sensuel à peine saisi depuis le regard. Ta focale en prisme désirant, ses cicatrices et ses nues comptent-elles une histoire. Liminale, à peine entamée. Les prémices, tu les sens venir ou disparaissant, laissées mourantes dans les feuilles décomposées. Tout dans l'obscur, le sourire là de nos luttes et nos trajectoires en filigrane, quelque part sous le tatou. Nous n'oublions pas la flamme en dedans, qui dans le regard du vent corrompu. En laissé, nous avons une famille choisie pour nous protéger du métier.
Le Goncourt, c'était plus quelque chose, moi je dis Goncourt, c'est plus quelque chose qui se crée. Et puis de facto, les romans queer sur une année, il y a une trentaine de romans à lire, max. Ça veut dire là, on peut se dire, on va tous les lire.
Virginie Despentes, écrivaine et membre du jury Goncourt.
Donc c'est très différent. Le Goncourt, c'est tous les romans d'une rentrée, plus éventuellement des romans qui sont parus dans l'année. C'est presque impossible de se dire, on va vraiment tous les lire.
Et donc il y a eu des grands débats très animés. C'est pareil dans le Goncourt ou est-ce qu'il y a des manières différentes de faire...
Il y a des manières hyper différentes parce que dans le Goncourt, il faut imaginer qu'est-ce qu'on veut dire aux lectrices et aux lecteurs, qu'est-ce qu'on veut faire comme prix. Et encore une fois, c'était une première édition, donc tout était très libre et très possible. Le Goncourt, ça change la trajectoire d'un auteur. C'est le prix le plus prestigieux, je crois, en France. C'est un travail énorme. Donc moi, je suis arrivé dans une petite société qui avait vraiment ses rituels et qui est très exigeante. C'est hyper agréable, c'est hyper intéressant, mais c'est un énorme travail. C'est tellement important comme prix. Ça marque vraiment... déjà, les ventes sont tellement énormes que oui, ça rassure pour quelques années. Ce qui est important, je trouve, dans ce prix Goncourt, c'est de rassembler des livres et de se dire... que Céline Minard a un point commun avec Nelly Slim, qui a un point commun avec Laura Vasquez, qui a un point commun avec Fatima Das. Si on se concentre là sur nous, nos identités queer, à quel point il y a une diversité des formes et des thèmes et des tons. Mais aussi, comme il a été dit par les jurys à un moment donné, ce qui est intéressant quand on fait le Goncourt, c'est de se rendre compte de tout ce qui n'est pas publié. De se dire, donc, ok, c'est vrai qu'il n'y a pas une, on n'a pas trouvé un roman écrit par une lesbienne noire. Enfin, de se dire, en fait, qu'est-ce qui manque ?
Avec ce prix, nous construisons un cheval de Troie pour entrer dans l'arène ennemie.
La littérature lesbienne, forcément, c'est une littérature minoritaire. Donc, à partir du moment où on parle d'expérience minoritaire, il ne s'agit pas de rester sur son compte à soi. L'intérêt de donner de l'attention et de la visibilité à une littérature minoritaire, c'est qu'elle soit représentative du maximum de minorités possibles. Il n'y a pas de minorité sans solidarité.
Avec ce prix, nous invitons à la joie, à une célébration collective de tout ce que nous sommes. Et c'est une personne trans qui vous parle ce soir.
On a mis du temps à se trouver en bibliothèque, en librairie. La littérature lesbienne, elle a longtemps été invisibilisée. C'est-à-dire qu'il fallait la chercher très très fort pour trouver le livre de Colette qui parlait de ça. La littérature lesbienne, c'était cantonné à soit de la pulp fiction, donc une sorte de littérature érotique, soit même censurée, je pense à Ravage de Violette Le Duc notamment. Et donc toute cette histoire-là d'avoir été cachée, d'avoir été invisibilisée, je pense que oui, ça crée un besoin et que maintenant, nous, dans notre génération, là, en 2025, on a envie de célébrer ça. Donc oui, tout ce qui permet de créer communauté va faire du bien, en fait, de discuter de ça, de partager une expérience minoritaire commune.
Cela passe également par un travail permanent, afin que puisse éclore de plus en plus d'ouvrages lesbiens écrits par des personnes trans, racisées, grosses, handicapées.
Pour les femmes hétérosexuelles, la littérature lesbienne joue un rôle fondamental.
Viviane Albenga, sociologue.
C'est-à-dire que des personnages de femmes lesbiennes ou des autrices qui elles-mêmes se revendiquent lesbiennes et qui peuvent servir en tant qu'autrices de modèle d'identification, c'est le fait de ne pas dépendre complètement du regard des hommes. Et ça, on le retrouve de manière assez récurrente dans ce que les lectrices vont aussi rechercher dans leur identification à des personnages féminins.
Il me semble qu'il y a quand même un premier tournant au moment justement de l'essor des féminismes dans les années 70. On peut penser aussi aux travaux extrêmement importants de quelqu'un comme Hélène Cixous ou bien de Monique Wittig, qui ont en commun d'écrire à la fois des textes littéraires et des textes critiques, puis des essais. Donc il y a aussi une circulation intellectuelle qui se fait à ce moment-là. On peut penser d'ailleurs aux représentations du livre dans Les Guerrières de Monique Wittig. Donc Les Guerrières, c'est 1969. C'est une épopée de science-fiction qui raconte de façon assez abstraite et très poétique la geste d'une communauté de femmes. L'expression « elles disent » en est une anaphore. Donc c'est par la parole qu'elles se définissent et que leur cercle prend forme. Et puis on lit assez tôt dans le livre, on voit qu'elles ont entre leurs mains de petits livres dont elles disent que ce sont des féminaires. Et ce néologisme forgé par Wittig dit bien la redéfinition de ce rapport au savoir, le féminaire, on entend effectivement le dictionnaire, mais aussi l'encyclopédie. C'est un livre où les guerrières puisent un savoir commun et dont elles vont aussi compléter les pages blanches. Et c'est à la fois un recueil de légendes qui fondent une communauté, mais c'est aussi un livre de science. Et ça, c'est important. Et ce sont aussi des récits pour l'avenir qu'elles écrivent. Et là, je crois qu'on voit bien comment ces féminaires, par la fiction, deviennent la promesse d'une bibliothèque plus ouverte et plus féministe. Mais pas uniquement en termes de renouvellement des identifications possibles, mais aussi en tant que redéfinition d'un rapport au savoir, qui est un rapport de pouvoir.
Alors, le Grand Prix est attribué à Sabrina Calvo. Édition du Comin. À Fatima Das. Au Joël Le Jeu. Chez le livre. À Wendy Delorme. Le Parlement de l'eau. Chez Gambier Plus. À Nelly Slim. Entre ici et maintenant, il y a la main. Chez le livre.
Alors, Fatima Das, vous avez reçu le prix Goncourt. La petite dernière avait eu vachement de succès. Pourquoi c'est particulier, peut-être, le prix Goncourt ?
Parce que je pense que ça donne une visibilité au travail des lesbiennes, quoi. Et c'est hyper important. Collectivement, en fait, c'est important. Plus qu'individuellement, j'ai envie de dire. Après, c'est important pour moi, ce prix-là en particulier, parce que c'est vrai que pendant la promotion de la petite dernière, on a pu me taxer d'homophobe. Voilà.
D'accord.
Alors que je suis moi-même lesbienne. Parce que je suis racisée, parce que je suis musulmane, et du coup, je pense que en étant une femme musulmane et algérienne, on ne peut être que homophobe. Voilà. Et du coup, c'est un peu comme une revanche pour moi aujourd'hui et d'être célébrée à travers ce prix. Voilà. je suis contente de rendre public une histoire qu'on n'a pas voulu entendre et de faire exister des personnages qu'on n'a pas envie de regarder, qu'on n'a pas envie d'aimer, qu'on n'a pas... Voilà, là, mon deuxième livre, ça parle d'adolescents racisés de quartiers populaires qui s'aiment entre eux, qui s'entraident et qui sont hyper lucides. C'est des histoires qu'on a pas, des personnages qu'on n'a pas forcément envie de voir, en tout cas de cette manière-là. Et je suis hyper contente quand ça connecte et que les gens le comprennent, cette histoire. Et...
Est-ce que vous auriez une définition peut-être d'une lectrice ou de l'acte de lire ?
Pour moi, ça va avec l'écriture. Je trouve que lire un bon livre, j'ai l'impression que ça donne envie d'écrire. Moi, je trouve que les livres qui m'ont marqué, ça m'a donné envie de passer à l'écriture, quoi. Il y a des livres de Duras, d'Annie Ernaux, d'Abdelataya, de la poésie de Sarah Mishkin, la Nelly Sling ce soir, il y en a beaucoup, quoi.
Est-ce que pour vous, la lecture, ça peut être un espace à soi, un espace de résistance ?
Je pense que ça permet de comprendre des choses dont on n'avait même pas conscience avant, de mettre des mots sur des expériences qui étaient silenciées, des existences qui étaient invisibilisées. Et en ça, ouais, je pense que c'est hyper émancipateur.
Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé. Tu ne me désirerais pas si tu ne m'avais pas un jour tenu dans tes bras. Ces bras, douceur intense. Série de scènes qui, encore à ma mémoire, font l'effet d'une illumination charnelle. A dansait. J'ai passé des soirées à guetter son apparition sur la scène de l'Éden, cabaret de bon ton de la rive gauche. Et qui ne se fût épris de cette charpente élancée, de cette musculature comme modelée par Michel-Ange, de ce satinet de peau dont rien de ce que j'avais connu jusqu'alors n'approchait. Sphinx d'Anne Garetta. Et ce passage-là, par exemple, est à la fois extrêmement incarné et inassignable du point de vue du genre.
C'était Celles qui lisent, épisode 8, avec Sylvie Ducas, Adassa Denou, Olivia de Lambertori, Estelle Mouton-Rovera, Fatima Das, Virginie Despentes, Lauriane Nicole, Viviane Albenga et Mélie Chen. Prise de son Anthony Thomasson, Eric Audra, Florent Layani. Mixage Eric Boisset. Documentation Annie Signoret, Antoine Builoz. Archivina Mylène Touchet. Chargée de programme Marie-Vonne Apolivier et Anaïne Morales. Coordination Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.